Les rendez-vous de Rosendo. Aujourd'hui, Germinal le Dantec.
Bonjour, je suis avec Germinal le Dantec, né en 1946 à Concarneau, qui a vécu et qui continue à vivre une époque artistique intense. Oui. Et je disais donc artiste comme auteur, compositeur, interprète et comédien. Il y a des cabarets, des tournées, des télés, des radios. Et avant d'opter pour d'autres horizons, fait des voyages, des rencontres.
Chez vous, mon cher ami.
Oui, aussi, je sais bien. À Piura, au Pérou. Ouais. Des initiatives multiples, un animateur infatigable, un citoyen fraternel et libre. J'ai envie d'ajouter que bon, tu es installé dans le sud-ouest depuis pas mal d'années. Tu étais cofondateur à Radio Locale à Moissac, Radio Doc. Fondateur en 1985 de l'association Brouillon, je dis bien Brouillon des cultures. Programmateur puis gérant du café spectacle Les Dali entre 92 et 96.
Une belle histoire.
On va en parler aussi. Animateur socioculturel et à la retraite officiellement depuis 2012. Bonjour, rebonjour Germinal.
Bonjour Zemdo. Ravi d'être avec toi à l'antenne.
Et nous allons donc développer dans ces premiers volets un peu ta bio. Tu as parlé des voyages au Pérou, tu es un infatigable voyageur. Et si tu pourras réajuster un petit peu ce que je viens de dire au niveau de ton résumé biographique, qu'est-ce que tu aurais envie de rectifier?
Non, je ne vois pas rectifier quoi que ce soit, mais bon, disons qu'elle est... je dis ça, c'est un peu stupide, mais c'est un résumé, et entre les lignes que tu as citées, il se passe quand même beaucoup de choses qui peuvent échapper. Je pense notamment à une belle aventure au retour de ce voyage d'Amérique latine pendant un an. J'ai eu le désir de créer quelque chose ici. C'était en 83. C'était à Saint-Nicolas-de-la-Grave. C'était un festival de musique du monde qui rassemblait des gens notoirement connus à l'époque, tels que Champion Jacques Dupré, Les Étoiles, Unia Ramos, également une chanteuse de tango argentine, des musiciens argentins, des bretons. Enfin voilà, toutes les musiques du monde étaient rassemblées pour une seule journée à Saint-Nicolas-de-la-Grave et c'était une expérience fabuleuse auxquelles les gens ont largement participé, hein, puisque chaque année on a fait le plein. Et c'était magnifique parce que ça a permis en même temps à tout un village de se mobiliser. Les filles du basket, les footballeurs, le rugby, enfin voilà. Le receveur faisait partie de l'association, le percepteur aussi. Je trouvais ça extraordinaire. Mais on n'a pas été, malheureusement, on n'a pas continué parce que je crois que les politiques n'ont pas senti le vent de l'histoire. Parce que les années qui ont suivi, il y a eu des festivals qui sont nés un peu partout, dont à Lorchante d'ailleurs dans la foulée. Et ça a pris, la mayonnaise a pris sur le territoire national, alors qu'on était un petit peu précurseurs. Bon, il en existait, il y avait Bourges déjà, le printemps de Bourges. Mais je tentais l'aventure et puis on n'a pas été suffisamment aidés.
Tu parles des années 70, 74.
J'ai dit 83, 84.
Ah oui. Bon, je vais me remonter un petit peu à 74, à l'époque qui a précédé ton voyage au Pérou, à l'Amérique latine.
79, c'était le voyage.
79, oui. Ouais. Donc, en 74, après le festival d'Avignon, tu avais décidé d'arrêter ou d'abandonner la compétition. Je souligne ces mots.
Oui, mais c'est moi qui dis ça. Je ne suis pas le seul à dire ça. C'est aussi un mot d'Yvan Dautin.
Alors, comment tu l'expliques?
Le papa Clémentine Dautin qui m'a dit un jour, pourquoi t'as arrêté la compétition? Bon, ouais. C'est un faisceau de choses. C'est pas une décision, elle n'était pas mûrement réfléchie, mais c'est suite à une dépression, à une tentative de suicide, à une histoire d'amour malheureuse, voilà. Que j'ai décidé de lâcher l'affaire.
Oui, il n'y a pas d'un, comme on dit Aragon, il n'y a pas d'histoire d'amour heureuse.
Bah, si, elles ont toutes été très heureuses, mais elles ont une fin. Comme si je dois citer une autre chanson qu'on entend beaucoup cet an dernier. Mm-hmm. Effectivement, elles ont toutes eu des fins. Mais bon, c'est, quelquefois, c'était de ma, ça venait de moi ou ça peut venir de l'autre, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est mm-hmm. la vie.
Oui, oui.
C'est toujours très heureux.
Donc, à l'époque, tu avais 28 ans. Et donc, tu décides de partir, de t'installer dans le sud-ouest à 28 ans. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision?
Bon, je vais essayer d'être très simple, de faire court. Parce que c'est une belle histoire aussi, c'est difficile en quelques mots. Alors, disons que j'avais des amis qui étaient passés dans l'Ariège faire de la marche. C'était des copines, des filles que je connaissais, qui faisaient partie du milieu un peu showbiz aussi, par leur mari qui était musicien. Elles s'étaient promenées du côté de Pamiers, elles ont rencontré le facteur, elles ont sympathisé, et le facteur leur a dit « Ah, j'ai une maison à louer en ce moment ». Bon, elles remontent à Paris, on se rencontre, c'était l'époque où j'allais pas trop bien, et elle me donne l'adresse, les contacts du facteur. Donc, je suis descendu avec mon ami, à Pamiers. Et malheureusement, le facteur nous a annoncé qu'il venait de la louer quelques jours avant. Mmh. Donc, je regarde mon carnet d'adresse et je suis tombé sur un ami comédien qui s'était retiré. C'était l'époque où beaucoup de gens partaient de Paris et s'installaient à la campagne. Hein. Celui-ci s'est installé près de Saint-Clar, près de la ferme des Étoiles, dont on parle beaucoup, Moroux, dans le Gers, mais aux limites du Gers du Tarn-et-Garonne. Et je suis arrivé une nuit dans le brouillard chez cet ami qui m'a ouvert les bras, qui a dit « Écoute, ma maison est la tienne », mais j'avais le désir quand même d'autonomie, bien sûr. Donc, il m'a cherché une maison dans les parages. Il avait travaillé dans les fruits. Donc, on est allé voir un propriétaire qui a accepté de me louer une maison. Et je ne suis plus parti. Et c'était dans le Tarn-et-Garonne, à Marsac.
Oui, donc tu as... En venant de Bretagne et de cette activité parisienne... Tu idéalisais un petit peu le sud-ouest, qu'est-ce qui t'a plu, ou qu'est-ce
qui t'a déçu? C'est vraiment un hasard. Non, j'allais beaucoup j'avais des amis en Ardèche, je partais sur... Non, disons que ce qui a primé, c'était l'envie de fuir la grande ville, de partir vers la paix, vers le calme et retrouver
donc,
un peu d'authenticité.
Donc, c'est quelque chose à voir avec l'arrêt de la compétition. Tu voulais faire une espèce de retraite spirituelle. Qu'est-ce que...
Il y a un peu de ça, mais il y a aussi une recherche d'authenticité parce que je venais de jouer dans une pièce pendant plus d'un an, Festival d'Avignon, etc., dont j'avais fait la musique. Et le milieu commençait à m'agacer prodigieusement. Les rivalités, les problèmes d'ego, etc. Ça commençait à me tanner le cuir et je dis j'ai pris la fuite quoi.
Donc ces rivalités, ces problèmes d'ego, tu ne les avais pas trouvés dans les cabarets rive gauche ou les petits conservatoires de Mireille. Non, c'était
curieusement dans la chanson ça n'existait pas. J'ai jamais remarqué ça. Au contraire, il y avait beaucoup d'entraide. C'est-à-dire les uns les autres se refilaient des tuyaux pour faire des tournées dans les centres culturels, les maisons de jeunes qui travaillaient beaucoup à l'époque. Moi, j'ai beaucoup tourné à travers la France grâce à ce réseau et à ses amis chanteurs, auteurs-compositeurs comme Jean Vasca, comme Jacques Bertin, qui nous refilaient des adresses et des contacts. Les chanteurs étaient très solidaires les uns les autres et ils se tiraient pas du tout dans les pattes. Ça, je dois le dire.
Oui.
Donc, je pense à François Béranger aussi, qui m'a
beaucoup
aidé.
Bon, on revient un peu sur les parcours. Tu décides de partir au Pérou. Pardon, je précise, au Pérou, Bolivie, Chili, Équateur.
Oui, toute l'Amérique latine.
Oui, mais la motivation principale que tu avais eue, selon ce que j'ai entendu, c'était d'abord les contacts avec les tangos argentins. Argentine, que c'est un des pays les plus européisés. Il n'est pas mentionné dans ton CV.
Non, parce que je ne suis pas allé dans les pays d'économie plus riche qui se rapprochaient trop de l'Europe. Je suis allé vraiment à la sac à dos, à la rencontre des gens. Moi, la passion du voyage, c'est pas d'aller visiter des sites, bien que j'y sois allé. Machu Picchu, évidemment, on peut pas échapper à ça. Mais c'était d'aller avec les gens sur les marchés, manger avec eux sur les marchés, se balader dans les vieux bus, dans les Andes, avec les gens qui t'offraient à mâcher de la coca, qui rigolaient. Je me suis fait moult fois couper les cheveux parce que ils étaient beaucoup plus longs. J'avais des anglaises comme ça, genre les Who, là. Et je me souviens plus du nom du chanteur. Et combien de mamans ont voulu couper les cheveux, ça devenait un peu un talisman pour leur petite fille qui voulait « Maman, je veux les cheveux, soupelo ».
Oui, on pourrait continuer comme ça aussi, mais j'aimerais que, avant de passer au deuxième volet de notre émission, et que tu nous parles un petit peu sur la radio, brièvement, de la radio DOC à Moissac. Aussi, tu étais dans la diffusion des artistes régionaux avec l'association Brouillon de Culture. Et peut-être que c'est trop ambitieux pour condenser toutes ces facettes de ta personnalité. Et programmateur...
Tout ça n'était pas en même temps.
Oui, bien sûr. Et je sais que la promiscuité, c'est pas partie de tes habitudes. Animateur socioculturel au centre des réfugiés à Mar-a-Montauban. Et la production.
C'est la dernière tranche avant la retraite, celle-là.
Oui. Oui. Mais les livres, on parlera. Ton œuvre, on va parler dans quelques minutes ou plus tard. Donc voilà, tu as. Maintenant.
J'ai collecté des expériences.
Oui, des expériences, oui. Qui, bon, cofondateur à la radio et association d'artistes régionaux, Brouillon de Culture.
Oui, ça ne sera pas duré éternellement, mais c'est parce que j'étais au chômage et j'avais un bureau au centre culturel de Moissac, donc qui m'avait été laissé. Donc c'était le moment. J'étais au chômage. Je me dis qu'est-ce que je vais faire parce que je ne peux pas rester inactif. Je suis allé voir Excalibur, Michel Vivoux, voilà, j'ai Joël Daïdé, mon vieux complice, Mamie Blue, c'est le créateur de Mamie Blue, qui vivait à Paris, mais je faisais beaucoup tourner ici dans la région. Et voilà, ça a marché. Il y avait Yves Gélef, enfin, tous les artistes du coin, les Waikiki, dont encore on peut découvrir aujourd'hui Nedelec et Jean-Marc Bouissou, hein, c'est ça ? Bouissou, ouais. Et voilà, qui chantent encore, c'est magnifique ce qu'ils font. Et donc à l'époque, je leur servais non seulement de secrétariat, je récupérais un peu d'argent sur les cachets pour l'expédition. Je prenais pas de fric du tout, hein. Mais c'était pour les frais de téléphone, les frais d'envoi d'affiches, etc. Je travaillais avec le Gers, avec le Lot. Mais ça me plaisait beaucoup, ça, de défendre les autres.
Oui, très bien, très bien. Mais puisque tu parles des chansons, on va t'écouter chanter Germinal.
Ah, c'est vieux, hein.
Les rendez-vous de Rosendo avec Germinal Le Dantec.
Je me balance au bout du vide, sans avenir. Nos rires mêlés à la dérive s'en vont mourir. Ta vie, nos vies s'étirent, flocons d'avenir.
Voilà un morceau de Germinal Le Dantec. Vous écoutez CFM, les rendez-vous de Rosendo. Aujourd'hui, justement, Germinal Le Dantec.
Germinal, tu voulais nous préciser un petit peu l'histoire de cette chanson que tu viens de faire passer.
Oui, c'est une histoire collective. Bon, je dois préciser avant tout qu'il y a du bon monde derrière. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu, il y a Gabriel Yared qui fait les musiques de films, qui a été l'arrangeur, Claude Angel à la guitare et Dominique Blanc-Francard, donc qui a enregistré, qui était à la console, et c'était enregistré au studio d'Hérouville. Un studio à l'époque qui était très connu. Voilà, c'était une comédie musicale à la base qui a fait un bide. Moi, j'avais laissé tomber l'histoire de la comédie musicale, mais on a enregistré ce disque chez Barclay et qui a bien marché puisqu'il y a eu le titre phare, c'est Je suis, chanté par Nicole Rieu, que beaucoup de gens connaissent. Voilà.
Bien, Germinal, j'ai avec moi ton livre, ton premier recueil de poèmes, de chansons et de textes qui s'appelle Brie des mots.
Et non pas Camembert.
Mm-hmm. Et donc, M-O-T-S et Brie, B-R-I-S.
J'adore jouer avec les mots.
Oui.
Vous avez remarqué, mon cher.
Je vais en parler, justement. Donc, laissez-moi préciser que ce livre est édité par l'Harmattan, dans la collection Cabaret. La couverture, c'est une couverture blanche. La première ligne, c'est marqué, bien sûr, nom et prénom, Germinal et Dantec, et je voulais commenter la photo. Donc la photo occupe la moitié supérieure de cette couverture, et tu apparais assis sur les marches d'un bâtiment qui est un petit peu débris, on pourrait dire, parce que la colonne qui est juste derrière toi se trouve un petit peu détruite ou rongée. Il y a un fond urbain derrière cette colonne, et les marches, on ne sait pas qu'est-ce que c'est un ancien palais, une cathédrale, je l'ignore. Bon, je me concentre sur les personnages, tu es avec un t-shirt jaune, et tu fumes, tu as une cigarette.
Oui, c'est terrible, je me le suis fait reprocher par les moralistes.
Ah bon?
Ouais. Oui. On m'a dit, mais ils ont laissé passer cette photo avec la cigarette, on la voit à peine, on la voit à peine. Il faut vraiment être... Je dirais pas le mot.
Mais... Oui, tu scrutes les photographes qui t'ont pris en photo, tu scrutes les scruteurs, tu es assis donc sur les marches.
Je pose, quoi.
Tu poses, ouais. Oui. Alors, à l'intérieur, il y a des photos, un parcours de ta vie, et bien sûr des poèmes, des chants, enfin, ouais. des textes. Que je vous invite à
et des découvrir. Illustrations d'Alain Mila, mm-hmm. dont on parlera tout à l'heure.
Oui.
C'est important de le souligner parce que j'étais à la recherche de quelqu'un qui veuille bien alléger un peu le bouquin, hein, qui est également un aspect visuel, mm-hmm. plus que de la lecture, simplement. Donc, et je me suis fendu de 4 dessins. Enfin, je ne les ai pas faits pour le bouquin, mais ils préexistaient dans mes archives. Mmh. Et je trouvais que ça collait bien avec les textes. Du coup, j'ai associé 4 dessins.
Oui. Donc, tu pourras commenter ou corriger la photo, la couverture,
mystérieux, les contenus. Hein, tu ne devines pas où c'est, non? C'est non. Pas la cathédrale de Montauban, en tout cas.
Mmh, non.
Mais ça pourrait, hein.
Oui.
Alors, cette photo se situe, je me souvenais plus parce que je croyais que c'était à Torcello, c'est une île près de Venise. Hein. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était ça, puis ma compagne m'a dit, mais non, on regarde les maisons derrière, Torcello, c'est en pleine nature, il y aurait eu des arbres. Et là, effectivement, tu as raison de souligner, il y a un immeuble derrière, enfin un immeuble qui n'est pas moderne d'ailleurs. Et après, j'ai réalisé après coup qu'effectivement, elle a été prise à Venise, parce que moi, je suis un fou de Venise pour des raisons sentimentales, parce que j'ai eu une histoire d'amour avec une Vénitienne quand j'étais à Paris, et nous faisions tous les deux des voyages croisés, elle venait me voir à Paris, j'allais la voir à Venise, donc... Venise, je connais maintenant, je peux pas me perdre à Venise. Celle-là a été prise donc à la pointe, tout au bout du Grand Canal. Pour ceux qui connaissent Venise, il y a une pointe dont j'ai oublié le nom et il y a une espèce de statue avec une boule dorée, qui marque vraiment la fin du canal et qui s'ouvre comme ça vers la lagune et les îles. Et elle a été prise sur, je pense que c'est une basilique. Tu vois, si j'avais été sérieux, j'aurais cherché à savoir précisément, oui, parce que j'ai encore des bouquins sur Venise. Alors c'est là, c'est au bout du grand, tout à fait au bout du Grand Canal, sur les marges de cette basilique.
Bon, on va rester sérieux, on va parler du contenu. Donc les contenus.
Ah ben non, on peut pas rester sérieux en parlant du contenu, c'est pas possible.
Mais je pense que si, c'est possible, c'est possible. Et les contenus, donc les poèmes, ils sont recueillis ou récupérés, selon ce que j'ai compris, par, à cause ou grâce à un déménagement que tu avais eu suite à la retraite.
Voilà,
donc,
les 2012, deux sont liés.
Et du coup, tu avais redécouvert et des poèmes et des textes, des chansons que tu t'as dit, bon, on va les publier, c'est ton premier livre. Et ce que c'était juste après ta retraite, et on pourrait parler d'une retraite ou d'une renaissance avec ces livres.
Ben c'est un peu les deux, tu as raison. Mais voilà, mais bon, c'était en arrière-plan. Hein. C'est des choses que je cogitais en secret. Je me disais un jour, il faudra que ça sorte parce que quand je les relisais, je me disais bon, finalement, ça peut plaire. Le problème, c'est pas du narcissisme, c'est de dire j'ai quand même 67 balais. On ne sait pas ce qui peut m'arriver demain, etc. J'ai trouvé ça dans mes cartons, j'ai consulté tout ça et j'ai tout regroupé. Il y en a d'autres derrière, mais j'ai fait des choix, là. Et ça serait dommage que ça parte à la poubelle, que mes enfants s'en foutent, ou tu vois, que mes successeurs les balancent. Donc, je veux dire, c'est quand même la somme, c'est des sédiments accumulés au cours d'une vie. Et l'opportunité que j'ai eue de pouvoir le publier, c'est que j'ai encore des restes d'amis sur Paris, et notamment un ami qui est directeur de collecte de cette collection chez l'Harmattan.
Donc, pistonnage, alors.
Je l'ai appelé, je lui ai envoyé les textes par internet avant parce que je doute toujours, hein, je doute. Donc, j'en ai laissé à des amis de Montauban, il y en a un ou deux aussi qui les possèdent, pour avoir, leur jugement, quoi.
Oui.
Et ils m'ont dit, mais non, mais ça leur a plu. Donc,
oui, mais si tu n'avais pas eu cet ami à l'Harmattan, tu penses que ça aurait pas été possible, la publication?
Si, mais peut-être plus difficile parce que la porte était grande ouverte suite à la lecture. Il m'a dit, il faut le faire.
Oui.
Bon,
à tout à l'heure,
pourquoi les chercher ailleurs?
Tu as parlé de ton âge, 67 ans. Et la première chose que tu mentionnes dans ton CV ou dans les résumés de la présentation du livre, c'est la date de naissance, 3 décembre 1946. Et je le souligne parce que dans une époque où il y a une mystification sur la jeunesse, tu mets avant ta date de naissance, l'âge. Ça ne pose pas de problème pour toi. Et je vais te lire...
Ça ne pose pas de problème, mais il y a beaucoup de gens qui vont être surpris. Parce qu'en général, on m'en donne 15-20 de moins. Donc, ils vont se dire, supercherie, c'est pas possible.
Bien, donc il y a une présentation dans ton livre, les préfaces de Christian Stalla, qui nous signale qu'au clair de ta plume germinale, en les ciselant, en les illuminant, fait jouir les mots. Acharniste de la syntaxe ataxique, arpenteur de l'absurde, il nous mène sans rambarde aux confins de son univers onirique, etc., etc. Je m'arrête un petit peu sur la dernière phrase, non, que c'est une espèce pour moi d'oxymore, hein, parce que il y a d'abord le mot acharniste, de la syntaxe ataxique. Bon, acharniste, c'est un néologisme bien...
Mais qui me plaît bien, parce que... Oui, qui prête à confusion.
Oui, mais
parce qu'on dit qu'il y a une faute de frappe, c'est anarchiste qu'il a
voulu dire. Oui, bien sûr, mais je pense que les gens de bonne foi, et même ceux de mauvaise foi, vont comprendre que c'est anarchie.
Si on le lit vite, on voit anarchiste au premier jet, au premier regard.
C'est la magie de l'anagramme. Donc, acharniste de la syntaxe ataxique. Mais là où je trouve l'oxymore, c'est... Au moment que tu parles de la syntaxe, qui à la base c'est l'ordre, c'est le rythme, les choix des phrases, des mots. Ouais. Et tout de suite, après, tu colles l'adjectif ataxie, qui fait la taxie, c'est la discoordination, l'absence de chef, et qui nous renvoie encore à l'anarchie, l'absence de chef, l'absence d'ordre. Donc, le fait de coller.
Oui, mais ça me plaît bien, ça.
Oui, oui. Mais non, mais ma question, c'est qu'est-ce que l'intention oxymorale, si on va inventer encore des mots,
est
évidente. Cette opposition de signification pour jouer, pour saisir l'humour, tu vois, comment l'humour, c'est quelque chose de sérieux. Mm-hmm. Et je réussis à te ramener à être sérieux.
Non, mais. Oui, mais c'est bien parce que, bon, il y a. Dans la jungle des textes, parce qu'il y a des choses complètement différentes, des images, chacun peut y trouver son plaisir, je crois, parce qu'il y a une recherche de fond quand même, il y a une philosophie sous-jacente, hein, quand même, en règle générale. Et derrière, c'est un peu de l'absurde qui prédomine, je dirais.
Oui, oui.
L'absurde, l'absurde de la vie. Voilà.
Mais Christian Stalin, celui qui fait les préfaces, signale que c'est une espèce d'alchimie de vers libre. Du vers libre. Oui. Et il transmute, il parle de toi, il transmute
c'est pas,
notre
excuse-moi, oui. Il y a erreur parce que, sur la personne, parce que Christian Stalin est le préfacier, mm-hmm. et là c'est Anne Bernard qui est la directrice de collection.
Ah ok, merci voilà. de la précision.
Et oui. à l'intérieur du livre, il y a une préface qui est complètement différente, qui est extraite, cette préface est extraite d'un livre qui a été écrit il y a 4-5 ans, Christian Stalin ayant tenu un cabaret à Paris, il a fait toute une galerie de portraits sur les chanteurs, il y a Souchon, Yvan Dottin, les gens qui sont passés dans son cabaret, dont moi. Et donc il y a une page et demie où il me décrit et sa figure dans le bouquin, mais ça, ce sont les commentaires de Anne Bernard, la
Anne
directrice
Bernard.
De collection.
Ah d'accord,
voilà.
Donc on va laisser à travers la lecture qu'il découvre donc, la préface.
Il faut rendre à César ce qui appartient. À...
Donc on reste pour l'instant avec Anna. Et donc, il parle de toi, il transmute notre réel. Son jeu de mots est fait d'aphorismes ou de truculentes incongruités verbales.
Oui, c'est dur à lire tout ça. Mmh.
Il nous
surtout
drogue...
pour un péruvien.
Oui, il nous drogue à l'homophonie, à la paranomasse.
C'est pas la paranoïa.
Oui, non, mais c'est pas par rapport au paronyme, non. C'est,
oui, oui, oui. Alors oui. Là aussi, je t'arrête parce que des amis, quand ils ont eu connaissance du bouquin, il y en a qui se sont précipités, qui l'ont fait livrer par internet, hein, oui. et ils m'ont dit, oulala, on est allé voir dans le Robert ce que ça signifiait tout ça. Je vous rassure, moi aussi, je savais même pas que ce que j'avais pondu, ça s'appelait comme ça.
Ah bon.
Et oui. Et même Anne Bernard, je l'appelle et je dis, où est-ce que t'as été pêché ces mots. Elle me dit, mais tu connaissais pas ça ? Mmh. Je dis, non, je savais pas que ça s'appelait comme ça, c'est extraordinaire. Mmh. Ah bon, j'ai fait ça, moi. Mmh. Ah ben c'est, oulala.
Ah oui, mais il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont pas, que nous ne sommes pas conscients qui sont nommées.
Hein. Ouais,
ah ouais. Oui. Donc, même, on pourrait parler de la catacrèse aussi, non ?
Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est une découverte pour moi. Ah bon, j'ai fait ça moi.
Ah oui, vas-y, explique le.
Je cherchais oui. D'ailleurs un truc. On peut dire aux auditeurs pour illustrer ça. Il y a, c'est dommage, tu vois. J'aurais pu y penser avant, parce qu'il y a vraiment une phrase qui illustre très bien cette histoire.
Mais
de,
c'est le détournement
de chance phonétique.
Propre, non. Mais la catacrèse, je pense que c'est un mot savant pour dire
un rapprochement phonétique, non. Deux choses qui s'entendent. Qui s'entendent de la même façon, mais qui n'ont pas la même signification, ni à l'écriture, ça n'a rien à voir. Mm-hmm. C'est pour ça j'avais un exemple là, qui était très.
Mais c'est ce qu'on appelle la métaphore lexicalisée,
parlant.
Non c'est,
tel,
c'est...
Par exemple, je suis tombé dessus. Mais vas-y. Je vous l'ai déjà dit.
Mm-hmm.
Voilà un exemple.
Oui.
Je vous l'ai déjà dit.
Mais c'est voilà. Toujours les jeux de mots.
Oui, bien sûr.
Ajoutés à la métaphore.
Oui,
donc,
ouais.
On est en pleine catacrèse, non? Bon, voilà, pour moi aussi, c'est
un vrai cataclysme.
Et donc, les livres de Germinal Dantec, Bris de mots. Bris de mots, oui.
Et c'est joli ville, le mot.
Oui. Donc, je vous invite donc à découvrir l'œuvre, le premier livre de Germinal Dantec. Et on va continuer à parler avec toi après cette pause musicale.
Ouais, pause café, c'est quand?
Après.
Ah bon, d'accord.
Le monde se noyait, place de la Courneuve. L'espoir faisait la fête, il fallait bien qu'il pleuve. Il mangeait un loukoum et des rêves à papa. Je t'avais reconnu, on se connaissait pas. Il flottait sans radeau sur le poumon du fleuve. J'ai entendu tes pas qui cherchaient une ville. La douleur de la peau de ton état civil, une vague battait les plages de tes joues, un son, un goût, un peu de nacre et d'acajou, un feu de pomme à pain allumait ton profil.
entre la mer d'ici et les grappes d'agrumes. Les épluchures bleues, un fol écho d'écume. J'ai suivi tes talons qui cousaient le trottoir. Sans cajou de citron, racontait ton histoire. Des gouttes d'incendie perlaient sur le comptoir. Un torrent vertical achène aux silhouettes. J'ai bu ta main, c'était l'automne est sur nos têtes. Le ciel a renversé son arrosoir de plomb. J'ai rejoint ta pupille encerclée de néon. J'ai croqué l'arc-en-ciel qui poussait sur ton front. Sous l'estand éventré qui crachait le cortège, le premier bouche à bouche au creux du dernier siège, tous les lampions prenaient des airs de lamparo. Alors on s'est jeté dans le lit du métro. Aucun de nous n'a dit la promesse de trop. Aucun de nous n'a dit la promesse de trop.
Voilà, c'était Jacques Higelin qui chante Le Prest. Vous écoutez CFM, les rendez-vous de Rosendo avec Germinal Le Dantec.
Alors Germinal, pourquoi ces choix? Pourquoi t'as choisi cette,
pourquoi cette chanson? Il y a plusieurs raisons. Bon, j'ai suivi Higelin, on se rencontrait fréquemment à l'époque où il n'était pas connu du tout. Et on mangeait ensemble, on a eu un peu, on s'est rencontrés souvent quoi. Et puis Alain aussi au tout début dans les cabarets chez Georges Rue des Canettes, on est devenus potes. Et quand il venait à Montauban, il arrivait quand il passait au Dali par exemple, il venait à la maison dormir, enfin dormir. On veillait jusqu'à pas d'heure la nuit avec une bouteille de rouge quoi, raconter n'importe quoi. Bon, c'est une histoire de cœur parce que Alain, moi j'ai pleuré pour ses chansons, j'ai pleuré quand il est mort, je me suis arrêté sur la route parce que je pouvais plus conduire. Hein, je rentrais des Landes et j'ai aux informations, la nouvelle est passée, et je me suis arrêté parce que ça m'a fait un pet quoi. Et puis pourquoi? Parce que en plus ce texte, il parle de la Courneuve. Et moi, quand j'étais gamin, ado, je travaillais sur les chantiers de la fête de l'humain à la Courneuve. J'avais 15, 16 ans et là, je commençais à rencontrer...
Oui, tu as un passé communiste assez notoire.
Ouais, ouais, c'est ça, c'était avant 1968. Mais moi, bon, je suis resté fidèle à certaines valeurs quand même. Hein.
Oui,
les valeurs fondamentales, je dirais.
Oui.
Plutôt philosophiques,
oui,
et marxistes.
Surtout avec cette actualité tellement bouillante.
Bah, bien sûr, on est en plein dedans. Là.
Oui,
on
n'a
pas les pieds dans le plat, mais parce que là, ça va nous prendre trop de temps. Pourquoi? Donc, il y a associé la Courneuve, donc, puisque Alain, dans ce texte, il parle d'une rencontre. Et je présume, moi, je ne sais pas, je poserai la question un jour à Sally, sa femme, et je suppose que c'est lié à sa rencontre avec Sally, avec qui, encore, j'ai le plaisir d'avoir Facebook et... Face, pardon, pas Facebook. Voilà. Tu disais, bon, je pense que dans le déroulement de l'émission, il est prévu la présentation de quelqu'un qu'on aime.
Mm-hmm.
Alors,
c'est ça.
Dans mes souvenirs des cabarets Rive Gauche, j'ai parlé de Jacques Bertin, de Béranger, etc., etc. Mais il y en avait un que j'appréciais particulièrement pour les textes et pour les disques qu'il a fait aussi, qui était connu à cette époque-là, notoirement, qui était également un des préférés de Claude Nougaro en tant que poète. Il s'appelle Jean Vasca et s'est retiré comme moi à un moment donné de la vie parisienne. Il vit dans l'Ardèche. Il est passé au Festival à l'Orchante il y a quelques années. J'avais eu le plaisir de le retrouver à l'auditorium de l'école de musique. Et donc Vasca, je dirais qu'il m'a inspiré pas d'une manière conséquente, mais par petits bouts comme ça, je retrouve un peu cette énergie dans l'écriture ou cette une rythmique et une musique derrière. Parce que toujours dans mes écrits également, on peut, ça peut être dit parce que la phonétique est puissante, qu'il y a du rythme derrière. Et ça, ça se retrouve dans les images aussi, fouillis d'images de Vasca, il y a des choses magnifiques. Je vais dire simplement un tout petit texte qui me plaît beaucoup. Il a un recueil, Le Cri, le Chant, ça s'appelle, paru au Cherche Midi, une maison d'édition assez connue.
Pardon, une petite précision, il est plus jeune que toi, je pense.
Non, il est plus âgé.
Il est plus âgé.
Oui, c'est toi qui l'as souligné tout à l'heure, d'ailleurs. Oui. C'est un ancêtre.
Oui, il est vivant encore, oui.
Ouais, il a encore envie, oui. Et pourquoi j'ai choisi celui-là ? Parce que l'image est très forte. J'allais très souvent dans le Var autrefois, hein, du côté de Carqueran, Toulon, et ça me frappait toujours la stridence des cigales l'été. C'est épouvantable. On s'en rend compte quand ça s'arrête, d'ailleurs. Hein, quand on baigne dedans, on le sait pas. Mais alors, ça fait un grand bien quand ça s'arrête de crisser. Alors, je vous dis un petit poème qui reflète bien la personnalité. Et dans ce bouquin, il parle beaucoup d'animaux, la fourmi, le cloporte, etc. Et là, le choix, c'est précisément, puisque j'en parlais, c'est la cigale. Cigale, si du sud, prêtresse répétitive du soleil, qui le célèbre en applaudissant des quatre ailes au plus haut de l'olivier, qui ouvre en grinçant la porte de l'été. C'est pas beau, ça? On y est, quoi.
Oui, surtout que c'est très concis. Et ça me fait penser à un des poètes que tu adores aussi, que tu aimes, et Paul Éluard.
Ah oui, là c'est la grande. Mais oui, quand on est ado pour les poèmes d'amour, on vibre avec Éluard, bien sûr.
Oui. Ouais. Lui, donc, dans une des fameuses citations, disait.
Je chante d'ailleurs les textes d'Éluard.
Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel.
Oui, c'est sympa de me dire ça, moi qui suis si bavard. Enfoiré.
Voilà, c'est une pique pour toi, mais aussi pour faire les liens avec un autre livre qui est bavard et mots, mais des mots très bien ciselés, bien romancés. Donc je parle de tes livres favoris, qui s'agit de Gabriel García Márquez.
Ouais, c'est baroque.
100 ans de solitude.
100 ans de solitude.
Et alors, qu'est-ce que tu as aimé dans ces livres de...
Le baroque, Gabriel. L'aspect baroque. La folie, la démesure, et il faut à chaque fois revenir un peu en arrière entre Aureliano et
Jorge.
Oui, parce que c'est une saga familiale. Oui. Et alors, on s'y perd un peu dans la jungle des personnes, quoi. Et c'est terrible. Mais on s'accroche quand même, on s'accroche parce que c'est d'une vivacité, c'est un roman foisonnant, énorme, comme il l'est lui-même, Márquez. Hein.
Oui, oui. Tu cites maintenant l'adjectif baroque, c'est... Et curieux, comme la première fois que je suis arrivé à Montauban, je rencontrais Félix Castan, occitaniste, qui m'a parlé aussi du baroque dans la poésie occitane.
Occitane, ouais.
Oui. Et alors, qu'est-ce que tu trouves de baroque dans le roman de García Márquez? Qu'est-ce qui te fait le baroque? C'est la profusion, c'est l'énorme
foisonnement,
la folie.
Oui, puis on retrouve.
Le surréalisme aussi, non?
Bien sûr. Oui, aussi, bien sûr. Et on retrouve l'esprit de l'Amérique latine là-dedans aussi, bien sûr. C'est pas du tout la même culture et le même comportement que nous autres, même si on est latin et dans le sud, notamment de la France. Mais je sais pas, c'est un autre monde, c'est un autre univers et il le restitue très bien, quoi, par sa plume. On s'y retrouve. Enfin, moi, pour être passé là-bas, je retrouve ça, quoi. Complètement. Oui. Et j'ai lu beaucoup, hein. Si je cite celui-là, c'est parce que, bon, c'est un de mes favoris, un de mes préférés. C'était difficile de choisir, Rosendo. C'est une torture, ce que tu m'as infligé là. Parce que j'ai dit, lequel? Je parlais de Malraux.
Oui, c'était une torture volontaire.
Bernanos, j'aime beaucoup aussi, mais c'est complètement différent.
Oui, j'aimerais aussi te dire que, tout à l'heure que tu as parlé sur l'analyse des mots, pour ton livre, et tu disais que Anna Bernard, la directrice de la collection, avait mis des mots que tu connaissais pas ou que tu es surpris de les découvrir, non? Et je voudrais te citer aussi une déclaration de García Márquez dans ses livres, qu'il a subi quelque part parce que beaucoup de livres, beaucoup de critiques, des commentaires, des mémoires ont été faites à partir de ce livre.
Son œuvre,
Et alors, il racontait que quelqu'un avait signalé l'importance des femmes dans son œuvre. Et lui-même, il n'était pas conscient. Et du coup, il s'est rendu compte que c'est la présence des femmes comme des personnages qui décident vraiment de la vie de l'Amérique latine. l'avait bouleversé parce qu'il le faisait d'une manière naturelle, mais quand il a pris conscience, il ne savait plus s'il devait faire plaisir à son critique ou devait faire plaisir à lui-même. Donc, pour te renvoyer à toi, est-ce que tu essayes de faire plaisir à la critique Anna Bernard ou à toi-même avec ces bris des mots?
Non, absolument pas. J'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Hein? Pas par orgueil, mais pour le partage. Pour dire. Et ce qu'il y a de bien dans ce bouquin, c'est qu'il y a des aspects qui vont plaire et d'autres déplaire. Hein? Mmh. Je suis multiple aussi, donc le bouquin il est multiple dans l'écrit et les chuchotements. Et c'est peut-être à travers les chuchotements justement qu'on me retrouve plus facilement que dans la fantaisie verbale. C'est plus dans ce qui est fantasmagorie. Fantasmagorie, pas gorille dans la jungle. Plutôt fantasmagorie féminine.
On se retrouve tout de suite.
Ouais.
I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas. And you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play?
Ça c'est Cat Stevens, un morceau choisi par Germinal Le Dantec, l'invité des rendez-vous de Rosendo.
Germinal, tu nous dis, tu nous expliques pourquoi tu as choisi cette chanson.
Ben, c'est pas compliqué, c'est que dans la préparation de cette émission, tu m'as demandé de préparer quelque chose en parlant de mes livres favoris, de mes films préférés. Des films, c'est pareil, j'en regarde comme beaucoup à l'appel, mais celui-là, il m'a marqué. Hein. J'avais 21 ans, j'étais à Paris. Je l'ai vu donc à sa sortie, hein, tout frais, tout chaud. Et il m'a ému aux larmes et il m'a d'une manière jubilatoire, parce que quand je suis sorti, je crois qu'on était deux ou trois copains, copines, on est sorti sur le trottoir avec une espèce de on s'est éclaté en regardant le monde différemment en sortant de là. Hein, un film subversif quand même sur l'amour avec des différences d'âge, puisque la dame elle est très âgée, le garçon il est désespéré, il veut se suicider tout le temps. Tu sors de là, c'est une bouffée d'air pur et ça donne envie de vivre et de s'éclater. Ça allait de pair avec mon enthousiasme aussi de cet âge-là, hein, 21 ans, j'arrive à Paris, je chante, je suis heureux. Bon, il y a un contexte qui fait que j'adorais ça. Et de surcroît, j'aimais beaucoup les mélodies de Cat Stevens et je baignais là-dedans fréquemment tout le temps. Même si j'étais chanteur français, bon, j'écoutais ce qui se faisait autour, le rock et tout ça, hein, c'est notre génération, on a baigné là-dedans. Et Cat Stevens m'inspirait beaucoup particulièrement. Donc, voilà, c'est ce film. Et cette chanson que je chante aussi pour le panard chez moi ou pour des amis, de temps en temps, je la fais à la guitare, celle-là aussi. J'aime beaucoup la
ça
faire.
Ça aurait été sympa que tu viennes avec ta guitare la chanter.
Oui, mais je l'ai oublié, je suis désolé. Par contre, demain soir, chez Deloche, c'est prévu. Voilà, oui. Je vais chanter quelques chansons.
Et tu as parlé de l'amour pour cette chanson. Et tu qui es un maître des mots. Est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, en t'inspirant de ces films, qu'est-ce que c'est que l'amour?
Ouh, alors là, mon pauvre ami, attends, je ne tiens pas à une vérité. Oh, c'est terrible, ça. L'amour de quoi?
Bon, est-ce que c'est le désintéressement, l'amour?
Ça dépend lequel. Mais l'amour humain, l'humanisme, l'amour de l'autre. Oui, c'est la rencontre. Il y a l'amour fusionnel qui peut être l'amour passion, qui peut être dangereux aussi entre hommes et femmes. Enfin, pour ce qui me concerne, hein, vous savez, entre deux hommes aussi. On va pas parler de l'actualité, mais voilà, ça c'est l'amour au sens. Puis après, il y a l'amour, l'amour de la vie, l'amour des autres, la rencontre. Ouais.
Alors, l'actualité.
J'aurais pu préparer ça si tu m'en avais parlé.
Il faut laisser un petit peu de spontanéité quand même. Alors,
débeauté.
Actualité, quel projet tu as actuellement?
Là, c'est la promo du bouquin, c'est l'actualité principale et je suis complètement crevé d'ailleurs, j'en dors mal parce que, oulala, faut pas que j'oublie ceci, cela. Alors, il y a plaisantement, cher ami, demain soir, donc chez Daniel Deloche, à la librairie Deloche, une rencontre avec les gens qui l'ont déjà, le bouquin, ou qui viennent pour l'acheter, le faire dédicacer. Mais je voulais aussi que ce soit un moment sympa, convivial. Donc, je prends ma guitare, je vais chanter quelques chansons, probablement celles qui figurent sur le livre, mais pas forcément d'ailleurs, ce qui me viendra à l'esprit comme ça, spontanément. Quelques textes aussi que j'ai envie peut-être de dire pour faire découvrir, pas tout le bouquin parce que ça prendrait du temps, mais voilà, histoire de panacher, de montrer un peu la production qui est dans le bouquin. Et puis après, après on peut papoter, se rencontrer, discuter.
Parler des autres, donc tu, justement...
Oui, avec les autres, les gens que j'aime.
Tu aimes beaucoup promouvoir ou parler d'autres artistes. Donc,
ah oui, évidemment, bien sûr.
Donc l'actualité, vas-y.
Oui. Alors, l'actualité, alors il y a un autre rendez-vous qui est fixé. Je continue avec l'agenda. Le 30 mai, pour ceux qui auraient raté Deloche à 17h30, le 30 mai, c'est à la librairie La Femme Renard, et ce sera un petit peu plus tard, 18h30, le 30 mai, c'est un jeudi soir, et les mêmes conditions, c'est-à-dire j'apporterai la guitare, je chanterai dans les mêmes conditions que pour chez Deloche. Ensuite, j'ai des rendez-vous qui sont préparés à Concarneau aussi parce que le hasard, c'est vraiment un hasard, on avait décidé de partir, ma femme et moi, une semaine en Bretagne, comme ça pour voir ma famille, mes amis qui sont là-bas encore. qu'on fait régulièrement d'ailleurs, hein, un pèlerinage aux sources en quelque sorte. Et je me suis dit, tiens, ça tombe bien parce que le bouquin est sorti, donc je suis là en relation avec la maison de la presse et les journaux. J'ai eu le télégramme de Brest hier et l'Ouest-France, je dois les appeler cet après-midi pour organiser une rencontre aussi. Mmh. Et ensuite, un moment important quand même, ça se passe chez l'éditeur rue des Écoles à Paris, donc l'espace Harmattan. C'est un petit espace qui peut contenir une soixantaine de personnes. Et là, donc, il y a tout un réseau d'amis, et moi j'en ai déjà pas mal qui viennent. Il y a des anciens d'Alorchamps. D'ailleurs, France Léa était passée au festival il y a quelques années. Il y a Yvan Dautin, il y aura Fabienne Elkoubi, enfin des chanteurs que j'ai beaucoup fréquentés à l'époque où je faisais les cabarets, qui vont être là. J'en oublie, hein, j'en oublie. Michel Quimper, journaliste aussi, avec qui j'ai collaboré pour un bouquin sur Lavilliers. Bernard, qui est un ancien compagnon aussi de route. Et voilà, donc beaucoup de gens vont se retrouver ce soir-là parce qu'ils ont envoyé quand même 200 invitations, les gens de la maison d'édition.
Oui, et
le 24.
Je vais te poser encore une autre question difficile, parce qu'elle est vaste. Ta vision de la culture, à tout à l'heure tu disais que tu avais beaucoup de choses à dire, donc profitons-y parce que tu voulais... Eh bien,
je suis d'une génération. Moi, je viens d'un milieu simple. Mon père était facteur, ma mère faisait des ménages pour subvenir aux besoins de la famille, parce qu'on était quatre enfants. Hein. Et je suis. Comment j'ai découvert la culture? Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup chez les communistes. Hein, toujours, d'ailleurs. Il en reste encore des aspects, mais Aragon, tout ça. Enfin, je sais pas. On découvre. Oui, fait par Ferrat, mais bien sûr, Ferrat aussi, absolument, c'est par tous ces gens-là, Monique Morelli, Francesca Solleville, qui est une amie, qui chante encore. Bon, j'ai parcouru toutes les fêtes qui avaient lieu dans le Finistère, mais pas seulement dans la découverte de la littérature, etc. Ça se pratiquait beaucoup. Hein.
Et si on parle maintenant, là, comment tu le confrontes à cette expérience avec ce qui se passe actuellement dans les Tarn-et-Garonne, est-ce que tu vois qu'il
y a... Mais il y a une perte de ça, mais partout, pas seulement en Tarn-et-Garonne. Mmh. Quand tu regardes la télé, mais c'est une catastrophe. C'est une opération de desservelage pour amener les gens à consommer bêtement, sans réfléchir. Moi, je suis sidéré, quoi. Je suis révolté contre ça. Je trouve que les générations, les jeunes d'aujourd'hui, à part évidemment, il y a toujours des exceptions, mais ils sont entraînés là-dedans et c'est une catastrophe. On va à la catastrophe, quoi. Il n'y a plus d'intérêt pour la culture. Il y a encore des petits réseaux, des petits lieux. Alors, paradoxalement, je trouve aussi que, moi, à une époque, avec Béranger, on voulait la culture pour tous et même la chanson. On n'était pas du tout dans le nombrilisme. On voulait que tout le monde, ça se faisait beaucoup à l'époque, Lavilliers ouvrait les portes aussi pour que les gens puissent venir gratuitement parce que c'est l'argent, la muraille. La muraille, c'est le pognon. Mmh. Mais même ici, à Montauban, au festival, moi, je peux pas aller à 3-4 spectacles. Je me ruine. Mmh. Hein, je suis à la retraite, je touche pas grand chose. Voilà. Le problème, c'est l'argent qui bloque. Mmh. Bon, on connaît le problème, il est plus vaste que ça, parce qu'il faut les payer, les artistes. Il y a des abus, bien sûr. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, à cette époque, avec Béranger, tout ça, on voulait justement que les gens aient accès par eux-mêmes. On encourageait les gens à faire de la musique. Et c'est arrivé. C'est ça, le paradoxe. C'est arrivé. Moi, je vois mon dernier garçon, qui est un musical à Toulouse, qui a un groupe, qui a déjà fait un CD, etc. À 21 ans, il avait fait un CD. C'était pas possible à notre époque. Les écoles de musique, ça pullule, ça fourmille en France partout. Et il y a plein de jeunes qui font de la musique. Donc, je vais pas râler après ça.
Oui.
Ravi. Si c'est pour, je veux dire, leur construction personnelle, c'est formidable. Mm-hmm. Si on tombe pas dans le commercial...
On pourrait continuer, Germinal, vraiment, vraiment. Il ne reste qu'une minute pour finir l'émission.
Non.
Si tu veux ajouter...
Oui, je veux rendre hommage à Alain Mila, qui est devenu un ami parce qu'on a partagé une expérience en accueillant avec l'association Réelle des jeunes qui venaient de Pologne et d'Italie il y a 2 ans. Pour moi, c'était une expérience très très dure parce que c'était mal foutu, mal préparé. Mm-hmm. Mais ça m'a permis de faire connaissance avec Alain Mila, qui est un plasticien, qui fabrique Land Art
oui.
Et qui donc a bien voulu se prêter au jeu et me faire des illustrations pour mon bouquin. Donc merci Alain, et je vais faire quand même une petite parenthèse pour dire que Alain Mila a une expo. Le vernissage aura lieu le 24 avril, la semaine prochaine, à 18h, à l'espace Dufort, rue Dufort. Et que également, il a lancé un concept qui s'appelle les performances Sentinelles de la paix. avec des parcours et des gens qui vont poser des pierres et concevoir des statues à partir de pierres, etc. Les Sentinelles de la Paix, il y aura une assemblée générale de l'association le 30 avril à Albias.
Merci, voilà.
En remerciant,
Germinal,
merci à toi aussi.
D'être là.
Merci.
C'était les rendez-vous de Rosendo, aujourd'hui avec Germinal Le Dantec.